Bonjour à chacun. Un plaisir de vous retrouver ce matin devant la parole de Dieu. À mon tour aussi de vous souhaiter, de nous souhaiter une année, comme l'a dit Patrick, hein, une année devant le Seigneur. On veut s'approcher de lui, on veut marcher à sa suite et on veut s'attendre à sa puissance et à sa grâce. Ce matin, on est toujours dans la troisième saison de notre série sur l'Exode. Il ne reste plus que quelques épisodes de cette série. Et dans cette troisième saison, on voit le Dieu de gloire qui se révèle à son peuple en venant habiter au milieu de lui. Dans cette troisième partie, on voit dimanche après dimanche les dispositions que Dieu a prises et demande au peuple de prendre pour que ce peuple pécheur puisse s'approcher du Dieu saint. Et on voit dimanche après dimanche que la volonté de Dieu, c'est de venir habiter au milieu du peuple. On voit que sa volonté, ça a été de sauver le peuple, de le délivrer pour l'amener à lui et pour que lui puisse vivre avec le peuple, au milieu du peuple. Mais on l'a déjà vu quand on a parlé du tabernacle, on va continuer à le voir ce matin. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Et on voit dimanche après dimanche dans notre lecture du livre de l'Exode que Dieu a choisi un endroit pour le rencontrer, c'est le tabernacle. Que Dieu a choisi un moyen de couvrir les fautes du peuple pécheur, ce sont les sacrifices. Que Dieu a choisi des médiateurs, ce sont les prêtres. Et c'est de ces prêtres que je vous propose de parler ce matin. Et on va encore une fois faire un survol, et de temps en temps on va zoomer un peu dans le texte ici et là, puisqu'ensemble on va couvrir deux chapitres. Si vous voulez ouvrir vos Bibles au chapitre 28 et 29 de l'Exode, donc le deuxième livre de la Bible, chapitre 28 et 29. Et en gros, si on devait résumer les chapitres, le premier chapitre parle des vêtements du prêtre. Un chapitre entier est consacré aux vêtements du prêtre, et on va voir pourquoi. Et le deuxième chapitre de ce matin, le chapitre 29, est consacré à l'investiture, c'est-à-dire à la cérémonie d'installation des prêtres. Alors quand on dit des prêtres, en fait c'est surtout du grand prêtre, Aaron, qui avait un rang particulier parmi les prêtres. Peut-être que dans votre Bible, il n'y a pas le mot prêtre, mais peut-être le mot sacrificateur. Pourquoi ? C'est un choix que les traducteurs ont fait, parce que la fonction principale, on va le voir, de ces prêtres, c'était d'offrir des sacrifices pour le peuple. Et aussi, peut-être dans vos Bibles, vous n'avez pas grand prêtre, mais souverain sacrificateur. Et j'aimerais voir quatre choses avec vous ce matin. La première, c'est que les prêtres représentaient le peuple auprès de Dieu. La deuxième, que les prêtres représentaient Dieu auprès du peuple. La troisième, c'est que nous avons besoin d'un meilleur prêtre. Et enfin, dernière partie, que Jésus est le prêtre parfait. Et s'il y a une seule chose à retenir ce matin, c'est celle-ci. Une seule chose à retenir, c'est parce que Jésus est le prêtre parfait, je peux m'approcher de Dieu avec confiance. Parce que Jésus est le prêtre parfait, je peux m'approcher de Dieu avec confiance. Et on va voir pourquoi je dis cela. Première partie, les prêtres représentaient le peuple auprès de Dieu. Je vais lire les quatre premiers versets du chapitre 28. Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils. Prends-les parmi les Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtre. Il s'agit d'Aaron et de ses fils Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son importance et son rang. Tu parleras à tous les artisans que j'ai remplis d'un esprit d'habileté et ils feront les vêtements qu'Aaron portera lorsqu'il sera consacré et lorsqu'il remplira la fonction des prêtres pour moi. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés destinés à ton frère Aaron et à ses fils lorsqu'ils rempliront la fonction de prêtre pour moi. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Encore une fois, on voit que Dieu détermine clairement les détails de la manière dont on peut le servir, de qui peut le servir, même de ce qu'ils vont porter pour le servir dans le tabernacle. Et on voit dans ces premiers versets deux choses. La première, c'est que les vêtements sont importants. Pourquoi ? Parce qu'ils distinguent les prêtres. Ils marquent leur rang. Et deuxième chose, parce qu'ils marquent leur consécration. Non seulement on savait que le prêtre était le prêtre quand on le voyait, mais aussi on savait que sa vie entière était dédiée à ce service. Peut-être dans vos Bibles, vous avez un autre mot que je n'ai pas cité, sacerdoce. C'est un gros mot. Qu'est-ce que ça signifie ? Dans la Bible, ça signifie la fonction des prêtres. Quand on parle de sacerdoce, on parle de la fonction des prêtres. Et c'est intéressant de remarquer que dans le langage courant, le sacerdoce, c'est quelque chose auquel on se dédie. Quand on dit c'est son sacerdoce, c'est quelque chose que cette personne embrasse et à laquelle cette personne se dévoue. Pourquoi ? Parce que ça part de ce sacerdoce des prêtres auquel ils étaient dédiés toute leur vie. Leur fonction, c'était de servir Dieu dans le tabernacle et plus tard dans l'histoire du peuple, dans le temple. Et en fait, ces quatre premiers versets, ils nous disent que quand on regarde un prêtre, en particulier le grand prêtre, on voyait sa fonction. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Et c'est vrai. Mais ce passage, il nous dit que le prêtre fait l'habit. Que le prêtre porte un habit qui dit qui il est, qui dit sa fonction et qui dit que toute sa vie est consacrée au culte de Dieu. Peut-être on peut voir une image. Alors, c'est approximatif, d'accord ? C'est pour vous aider à figurer un peu l'emplacement, surtout des vêtements, les couleurs. On n'est pas très sûr, en fait. On n'a pas encore retrouvé de photos des grands prêtres. Donc, on se base sur les descriptions, mais les descriptions sont approximatives et d'une image à l'autre. Vous retrouverez plus ou moins les mêmes choses, mais pas forcément les choses en détail. Et le texte commence à partir du verset 6 à décrire l'éphod. Alors vous voyez ici l'éphod, c'est un peu un tablier. Il y avait la tunique. Alors tout en dessous, il y avait des caleçons de fin lin. Et la Bible insiste, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque temps, dès que Dieu avait parlé des sacrifices, il avait parlé de l'autel, il avait parlé directement que le prêtre devait se couvrir. Couvrir sa nudité, pourquoi ? Parce que Dieu voulait s'assurer que le culte qui était fait en Israël ne ressemble en rien au rite des tribus alentours, des Cananéens. Dans ces tribus-là, on adorait les idoles, Baal, souvent dans des rites inapproprié. C'était le dieu de la fécondité et on y associait le désordre et la débauche et les prêtres faisaient leur service nus. Dieu voulait que le culte en Israël ne ressemble en rien à ce que faisaient les autres autour de lui. Donc les prêtres avaient des caleçons en fin lin, ils avaient une tunique, on la voit dessous, une robe, par-dessus la robe, l'éphod comme une sorte de tablier et par-dessus l'éphod, le pectoral. On va en parler juste après. Parlons de l'éphod. L'éphod, c'est une sorte de tablier et on voit ici sur les épaulettes, sur les épaules, le texte nous dit qu'il fallait faire deux pierres d'onyx gravées avec les noms des 12 fils d'Israël. On voit ça au verset 9 à 11. Tu prendras deux pierres d'onyx, tu y graveras les noms des fils d'Israël, sinon sur une pierre et sinon sur une autre pierre. Pourquoi ? Le texte nous le dit au verset 12. Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphod comme pierre de souvenir pour les fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. À chaque fois qu'Aaron se présentait devant Dieu dans le tabernacle, il portait littéralement les noms des tribus, les noms du peuple devant Dieu. Il représentait le peuple auprès de Dieu, littéralement. Un peu plus loin, à partir du verset 15, il nous parle du pectoral. Le pectoral, c'est cette pièce carrée que le prêtre portait sur son torse. Et le texte nous dit, au verset 17 à 20, que le pectoral était garni de quatre rangées de trois pierres précieuses. Bien sûr, le dessin, vous l'avez vu, est tout plat, et bien sûr, ne rend pas la beauté et le côté précieux de ces quatre rangées de pierres précieuses. Et encore une fois, pourquoi porter ces pierres? Le texte nous le dit au verset 21, que ces pierres devaient être gravées avec les 12 noms des tribus d'Israël. Je lis le verset 21. Les pierres seront au nom des fils d'Israël. Il y en aura 12 d'après leur nom. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Sur chacune des pierres du pectoral, sur chacune des 12 pierres, il y avait le nom d'une tribu d'Israël. Pourquoi ? Le texte nous le dit, versets 29 à 30. Lorsqu'Aaron entrera dans le lieu saint, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, comme un souvenir permanent devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera en permanence sur son cœur le jugement des Israélites devant l'Éternel. Le rôle principal des prêtres, c'était d'offrir des sacrifices pour expier, pour couvrir les péchés du peuple à l'extérieur de la tente et de se présenter devant Dieu dans la tente pour intercéder auprès de Dieu pour le peuple. Et encore une fois, avec ce pectoral, on voit que littéralement, le prêtre portait les noms des fils d'Israël sur son cœur. Et quand il s'approchait de Dieu, c'était pour intercéder. Encore une fois, le prêtre représentait Dieu, représentait le peuple auprès de Dieu. Il le portait sur ses épaules, il le portait sur son cœur. Et quand Dieu voyait le prêtre s'approcher, c'est tout le peuple qui venait s'approcher. À partir du verset 31, le texte nous parle du reste des habits, de la robe, de la tunique, du turban et de l'écharpe. Mais j'aimerais me concentrer sur un élément en particulier, au verset 36 et 37. Tu feras une lame en or pur et tu y graveras, comme le fait un graveur de cachet, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. C'est ce qu'on voit ici. Le prêtre, sur son front, avait une lame en or, avait inscrit sainteté à l'Éternel. Pourquoi ? Encore une fois, le texte nous le dit, verset 38. Elle sera sur le front d'Aaron. Ainsi Aaron sera chargé des fautes commises par les Israélites lorsqu'ils m'apporteront toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. La lame d'or symbolisait la sainteté du peuple et représentait encore une fois le peuple auprès de Dieu pour qu'il l'accepte. Quand il levait le front vers l'Éternel, le prêtre disait à Dieu « Accepte-les car ils sont saints ». On voit donc que les vêtements avaient beaucoup d'importance, parce qu'ils étaient chargés de sens. Ils ne montraient pas seulement la beauté et la grandeur du service qu'on devait rendre à Dieu, mais chacun des éléments était chargé de sens par Dieu. Ce n'est pas un sens que l'on veut deviner, ce n'est pas un sens que l'on veut imposer au texte, mais c'est Dieu qui nous donne le sens. Et c'est Dieu qui nous dit que dans cette fonction de prêtre, la première est de représenter le peuple auprès de lui. Et le peuple, on l'a dit, ne peut pas s'approcher de Dieu directement. Il faut un médiateur. Et depuis le début du livre de l'Exode, on voit que le médiateur, c'est Moïse. Vous rappelez peut-être que lorsqu'il rencontre Dieu sur la montagne, le peuple ne peut pas s'approcher, seul Moïse peut s'approcher de Dieu. Et Moïse fait le lien entre le Dieu et le peuple. Il monte voir Dieu, Dieu lui donne des paroles pour le peuple, il redescend au peuple, il donne les paroles de Dieu au peuple. Le peuple répond, il remonte à Dieu, il donne les réponses. Est-ce que Dieu il avait besoin de Moïse parce qu'il n'entendait pas du haut de la montagne? Non, mais Dieu a choisi que ce soit par un médiateur qu'on puisse l'approcher. Et après Moïse, on voit que maintenant, Dieu choisit des prêtres. Il choisit une tribu, les Lévites, pour le servir, pour que eux soient le médiateur entre lui, le Dieu saint, et eux, le peuple pécheur. Et il fallait que les prêtres s'approchent de Dieu en leur nom. Et c'est au nom du peuple qu'ils s'approchaient de Dieu. Pourquoi ? Pour intercéder et pour maintenir le lien du peuple avec Dieu. Deuxième partie. Les prêtres représentaient Dieu auprès du peuple. Dans notre lecture, si on revient un peu en arrière, au verset 6, toujours dans le chapitre 28, on lit que l'éphod, donc cette sorte de tablier, est fait d'or, de fil violet, peut-être vous avez bleu chez vous, on n'est pas sûr de la traduction des termes, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Verset 15, le pectoral. Le texte nous dit que le pectoral est également fait d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Verset 11, verset 20, quand on nous parle de ces pierres qui sont mises sur les épaules et sur le pectoral, on nous dit qu'elles sont enchâssées dans des montures d'or. On nous dit aussi que les épaulettes, les anneaux qui tiennent le pectoral sont aussi en or. Et on nous dit enfin en verset 31 que la robe de l'éphod est entièrement violette et elle est décorée de grenades violettes, pourpres et cramoisies. Et en fait, ces matériaux et ces couleurs, c'est exactement les mêmes que pour le tabernacle. L'or, la dernière fois, Jean-Jacques nous l'a dit, est employé massivement pour le tabernacle. Le tabernacle a de l'or presque partout, ou en tout cas dans ses parties intérieures. Plus de 900 kilos, on lira plus tard, sont employés pour faire le tabernacle. Et on lit aussi dans le chapitre 26 qu'on avait parcouru avec Jean-Jacques la dernière fois que les étoffes, les tapis, les rideaux sont faits des mêmes fils, des mêmes couleurs, violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ça m'a rappelé un film. C'est étonnant, n'est-ce pas? Dire, purée, il passe son temps à regarder des films. Alors celui-là, il est vieux, je l'ai vu il y a longtemps. Mais il y a une scène qui m'a marqué. Presque juste cette scène, d'ailleurs, dont je me souviens. Et dans ce film, Andrew, c'est le personnage principal, il doit retourner dans sa ville natale pour enterrer sa mère. Et après la cérémonie, il se retrouve dans la maison de sa mère, et puis il est assis sur le canapé, complètement dévasté. Et puis il y a une des amies de sa mère qui est à côté de lui, et qui lui dit, mais tu sais, dans les derniers mois avant sa mort, j'ai aidé ta mère à refaire le hall de la nouvelle salle de bain. Et elle dit, je t'ai fait un cadeau, quelque chose qui, je l'espère, te fera plaisir. Avec les chutes de la tapisserie, je t'ai fait une chemise. Et la scène d'après, c'est ça. Le film ne dit pas si la chemise lui a plu. On peut le lire sur son visage. Mais impossible de ne pas faire le rapport entre sa chemise et la tapisserie, qui, disons-le, est assez étonnante. Et c'est un peu la même chose avec les vêtements du prêtre. Quand on lit la description, à la fois des tissus qui sont employés, des couleurs et des matériaux pour la construction du tabernacle, et des tissus, des couleurs, des matériaux pour la confection des vêtements du prêtre, on est obligé de faire le rapport. Quand on regardait au prêtre et à ses vêtements si étonnants, magnifiques, on pensait au tabernacle. C'est un peu presque, dit un commentateur, comme si le prêtre se revêtait du tabernacle. Et en fait, on voit que les vêtements d'Aaron devaient diriger les regards du peuple vers Dieu et les regards de Dieu vers le peuple. Il représente le peuple auprès de Dieu et Dieu auprès du peuple. Et à la fin du chapitre 29, on nous dit que c'est au tabernacle que Dieu rencontrera le peuple. Verset 43. À la fin du verset 42, il dit « C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. » Verset 46, Dieu dit « Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Le but du sacerdoce, la fonction des prêtres, c'était de représenter la présence de Dieu au milieu du peuple. C'était d'écouter sa parole et de la partager au peuple. Troisième partie. Nous avons besoin d'un meilleur prêtre. J'ai parlé des vêtements, j'ai parlé du chapitre 28, mais pas encore de leur investiture. Le chapitre 29 parle de la cérémonie, des détails de l'installation des prêtres dans leurs fonctions. Et c'est une cérémonie qui dure pendant 7 jours, nous dit le texte à 2 reprises, versets 30 et 35. Pendant 7 jours, tu feras cela. Et premier verset du chapitre 29, voici ce que tu feras pour les consacrer afin qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. Donc on voit que cette cérémonie, elle est là pour consacrer les prêtres et dire au peuple, maintenant, cette personne vit pour me servir. Et cette personne vit pour vous représenter auprès de Dieu et pour représenter Dieu auprès de vous. Et la cérémonie est marquée par 3 sacrifices, nous dit le texte. On ne va pas les voir dans le détail, mais on devait sacrifier d'abord un taureau et 2 béliers. Et avec le sang du dernier sacrifice, le sang du 2e bélier, on lit au verset 20. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu verseras le sang sur le pourtour de l'autel. On avait déjà vu dans le livre de l'Exode l'importance du sang. Le sang qui venait sceller l'alliance. Et là, on voit dans cette cérémonie que, de manière symbolique, encore une fois, avec ce 3e sacrifice, Moïse devait mettre du sang sur le lobe, le pouce droit et le gros orteil droit des prêtres, du grand prêtre. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient consacrés à Dieu de la tête aux pieds. Littéralement, de la tête aux pieds. Et qu'ils devaient entendre la parole de Dieu, agir pour Dieu et marcher dans la présence de Dieu. Alors, si vous suivez l'actualité People comme moi, non, c'est pas vrai. Mais même sans la suivre, on voit parfois des choses étonnantes. Et chaque année, à la même période, alors je ne sais pas quand c'est, mais on sait quand ça arrive parce qu'on voit des photos ici et là de robes extraordinaires et de... On dirait qu'il y a une rivalité pour avoir la robe la plus extraordinaire et, en plus, et la plus loufoque parfois. C'est simplement le musée des costumes d'art métropolitaine qui organise un gala pour lever des fonds. On appelle ça le Met Gala. Si vous cherchez Met, M-E-T Gala, vous allez voir des photos de robes les plus folles les unes que les autres. Et on voit que les invités, en particulier les femmes, redoublent d'imagination pour avoir les robes les plus impressionnantes. Et on a parlé des vêtements du grand prêtre. On a dit qu'ils étaient faits de matériaux précieux. On a dit qu'ils étaient recouverts de pierres précieuses. Ça devait être impressionnant. Ça devait être magnifique. C'était un peu comme le gala du Met, sauf qu'il n'y avait qu'un seul costume. Et on voit l'importance et la beauté de ces costumes. Et c'est peut-être, au fond, ce qu'essayent de faire ces gens qui viennent à ce gala habillés de vêtements somptueux, c'est de dire ou de vouloir montrer leur importance et leur beauté. Mais c'est ce qui était le cas avec le costume, les habits du grand prêtre. On voyait l'importance et la beauté de sa fonction. Mais vous connaissez le point commun entre toutes ces personnes qui vont au gala du Met, toutes ces célébrités, toutes ces stars de cinéma, de la musique, et le grand prêtre. Le point commun, c'est que sous leurs vêtements, ils sont comme vous et moi. Et c'est ça le problème. Pourquoi c'est un problème? On voit au verset 4 du chapitre 29 que pour rentrer dans la fonction du prêtre, le prêtre devait être lavé avant d'être habillé. On lavait le prêtre, on l'habillait, et ensuite, la première chose qu'on faisait, le premier sacrifice qu'on faisait, c'était un sacrifice pour le péché. On lit au verset 14. Un sacrifice pour le péché, c'était le premier sacrifice de la cérémonie. Les prêtres posaient leurs mains sur le taureau et le taureau était sacrifié. Le taureau payait pour les péchés du prêtre. Pourquoi ? Parce qu'il était pécheur. Il avait besoin que quelqu'un paye pour qu'il puisse s'approcher de Dieu. Les prêtres étaient pécheurs et leur sacrifice était imparfait et temporaire. Et pour ça, on voit que le sacerdoce, on voit que la fonction des prêtres, elle est instituée par Dieu, mais Dieu sait, même si cette institution permet au peuple de s'approcher de Dieu dans le pays à ce moment-là, que ce n'est pas cette institution qui va régler le problème du péché. Et l'épître aux Hébreux, qui pour en grande partie est un commentaire de cette partie du livre de l'Exode, nous dit que les sacrificateurs se sont succédés parce que la mort les empêchait d'être permanents. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il nous fallait un prêtre parfait. Il fallait un prêtre qui représente parfaitement le peuple. Un prêtre qui présente le sacrifice parfait pour ôter le péché du peuple, une fois pour toutes. Un prêtre parfait pour pouvoir rétablir complètement la relation entre le peuple et Dieu. Et c'est notre quatrième partie, Christ, Jésus, notre prêtre parfait. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Je lis au chapitre 7, je lis les versets 26 à 27, pas la peine de chercher, je vous le lis. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs ou comme le grand prêtre, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Et plus loin, le même auteur dit que Jésus est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Non avec le sang des béliers et des boucs, mais avec son propre sang. Ainsi, il nous a obtenu une rédemption éternelle. Il a aboli le péché par son sacrifice. Tout ça, c'est des citations du livre aux Hébreux. Par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Et en fait, on voit que ce que les prêtres ne pouvaient pas faire, Jésus l'a fait. Ce que les prêtres ne pouvaient pas nous obtenir, Jésus nous l'a obtenu. Et on voit que Jésus, il est à la fois le sacrifice parfait qui vient couvrir nos péchés et apaiser la colère de Dieu une fois pour toutes. Il est aussi le sacrificateur parfait qui intercède pour nous auprès de Dieu. C'est magnifique. Ça nous dépasse. C'est quoi le rapport avec nous aujourd'hui ? Et c'est quoi le rapport entre ce qui s'est passé à la croix, où Jésus s'est offert comme un sacrifice parfait, et nous aujourd'hui, en cette nouvelle année 2019 ? On le voit depuis le début, quand on lit le livre de l'Exode, qu'on devait avoir un médiateur. On devait aller voir le prêtre pour s'approcher de Dieu. Mais on voit aussi, c'est paradoxal dans le livre, mais c'est vraiment là que cette proximité, elle est relative. Dieu dit, et Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Mais on voit aussi, et Jean-Jacques l'a souligné la dernière fois, que sa présence, elle est relative. Dieu est vraiment là, mais il est caché au regard du peuple. Et la seule personne qui puisse s'approcher un peu plus de Dieu, c'est le prêtre. Et encore, il peut accéder à sa présence seulement une fois dans l'année, le jour du grand pardon. Mais Jésus, nous dit la Bible, permet de nous approcher de Dieu. Parce qu'il est le prêtre parfait, je peux m'approcher de Dieu avec confiance. La Bible nous dit qu'il a déchiré le voile qui séparait justement l'entrée de ce lieu où Dieu était, et qu'on peut s'approcher de Dieu par l'intermédiaire de Jésus. La Bible dit qu'on a un accès libre à Dieu, et que Dieu accepte tous ceux qui s'approchent de lui. Et on voit que le sacrifice de Jésus est nécessaire, parce qu'on en a besoin pour s'approcher de lui, mais aussi qu'il est suffisant, on n'a besoin de rien d'autre pour s'approcher de lui. Peut-être qu'il y a des personnes ce matin, peut-être que vous connaissez Dieu, peut-être que vous ne le connaissez pas encore tel que la Bible le décrit. Peut-être que vous dites que vous êtes trop loin pour Dieu. Je suis allé trop loin. J'ai fait trop de choses graves dans ma vie. J'ai fait trop de choses graves l'an dernier. J'ai fait trop de choses graves cette semaine. Trop de choses graves hier. Trop de choses graves ce matin. Mais personne n'est trop loin. Et le sacrifice de Jésus est suffisant. Il couvre les péchés de tous ceux qui s'approchent de Dieu. Il couvre les péchés de tous ceux qui font confiance en Jésus pour s'approcher de Dieu, même les pires, même ceux qu'on considère pires. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Peut-être que certains traversent des périodes de tentation, des périodes d'épreuves. Et la Bible nous dit que Jésus peut nous comprendre. Pourquoi ? Parce que lui-même, il a été tenté comme nous, en toute chose, sans péché. Et que parce qu'il était vraiment homme, il peut nous comprendre. Et il peut compatir. On ne vient pas voir Dieu quand on s'approche de Jésus, qui est lointain, qui nous prend de haut, ou qui n'a aucune connaissance réelle de ce que ça veut dire d'être tenté. Quand quelqu'un traverse une épreuve ou une tentation, parfois on dit « je comprends ». Mais est-ce qu'on comprend vraiment ? Est-ce qu'on peut vraiment comprendre si on ne s'est pas trouvé dans la même situation ? Est-ce que celui qui n'a jamais vécu le deuil peut comprendre vraiment le deuil ? On peut se l'imaginer. On peut faire des analogies avec ce que personnellement on a déjà vécu, peut-être d'un peu plus loin. Certains vivent des tentations que peut-être d'autres ne vivent pas. Jésus peut nous comprendre parce qu'il a été tenté comme nous. Il peut nous secourir. Et il est plein de miséricorde, nous dit le texte. Plein de miséricorde. Il peut nous accueillir parce qu'il sait ce que nous vivons. Peut-être que d'autres se sentent trop honteux. Peut-être que certains portent un secret depuis des années. Un secret peut-être qu'ils n'ont dit à personne. À personne. Mais ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus, nous dit le texte, sont purifiés et leur conscience est purifiée. Jésus est celui qui nous permet de nous débarrasser de ce qui nous pèse au plus profond de nous. Il est celui qui nous lave et lave notre conscience. Il est celui qui nous purifie pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Son sacrifice est suffisant. D'autres peut-être se disent « Je sais que je suis loin de Dieu. Je vais d'abord me laver avant de me présenter devant Dieu. » On ne se le dit pas comme ça, mais on se l'imagine comme ça. En fait, Jésus est le seul qui peut nous laver. Ce n'est pas qu'on doit se laver pour s'approcher de Dieu, c'est qu'on doit passer par Jésus qui nous lave pour nous approcher de lui. Il nous purifie. Et il nous lave complètement. Son sacrifice est suffisant. Peut-être que certains doutent. Peut-être que certains se sentent accusés. Des mensonges de notre entourage. Des mensonges peut-être de l'ennemi. Des mensonges qui viennent de nous-mêmes, de notre propre péché. Et qui nous disent le contraire sur nous de ce que la Bible dit sur nous. Mais Jésus intercède pour nous auprès de Dieu. De la même manière que le prêtre offrait un sacrifice pour couvrir les fautes du peuple et entrer dans le tabernacle, dans la présence de Dieu, pour intercéder auprès de Dieu pour le peuple. De la même manière, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Christ s'est offert en sacrifice une fois pour toutes pour couvrir nos péchés. Il est monté à la droite du Père, auprès duquel il intercède pour tous ceux qui se confient en lui. Je lis ce passage dans Romains 8. Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Aujourd'hui, en ce moment, Dieu est en train d'intercéder pour nous. Et qui que ce soit qui vienne nous accuser auprès de Dieu, Jésus est là pour intercéder en disant « Non, c'est faux, mon sang a couvert leur péché. Mon sacrifice est suffisant. Et ils sont saints. » Il est celui qui intercède pour nous auprès de Dieu. Le prêtre faisait le sacrifice, venait auprès de Dieu et portait sur lui le peuple avec ce pectoral et ses deux épaulettes avec les noms des tribus d'Israël. Jésus nous porte devant Dieu. Nos noms sont gravés sur ses mains. Et il intercède pour nous sur la base de son sacrifice parfait. Et il a parfaitement apaisé la colère de Dieu. On n'est plus sous la condamnation. On n'est plus des enfants destinés à la colère. On est des enfants bien-aimés de Dieu, qui s'approchent du Père, non avec crainte, mais avec confiance, parce qu'il les aime. Chers frères, chères sœurs, on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. On peut s'approcher de Dieu avec confiance parce que Jésus est notre prêtre parfait. On peut s'approcher avec confiance du trône de la grâce parce que Dieu nous y attend. Je vais prier. Père Céleste, merci parce que c'est toi qui prends l'initiative encore une fois de t'approcher de nous. C'est toi qui as pris l'initiative de sauver ton peuple et de venir habiter au milieu de nous en Jésus. Et c'est toi qui permets que l'on puisse s'approcher de toi avec confiance en Jésus. Merci pour les prêtres de l'Ancien Testament, merci pour Aaron, pour ses fils, parce qu'ils annonçaient un prêtre plus grand. Ils pointaient vers celui qui peut vraiment couvrir nos péchés, vers celui qui intercède parfaitement pour nous auprès de toi, celui qui est le médiateur parfait, celui qui nous représente auprès de toi et dans lequel on peut te voir, Jésus. Et Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation, quel que soit notre état, quelle que soit la manière dont on commence 2019, on puisse s'avancer devant toi, s'agenouiller devant ton trône et venir implorer ta grâce en sachant que nous avons l'assurance de la voir et de la recevoir en Jésus. Merci Seigneur pour ces vérités glorieuses qui nous libèrent, qui nous font du bien, qui nous disent encore la beauté de ta gloire et la beauté de ta grâce, la puissance de ton salut et la perfection de Jésus. Pour ta gloire. Amen.